9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Anne de Jouvenel-Thuny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gémologue, vous êtes une spécialiste des pierres précieuses, vous avez enseigné à l'Institut National de Gémologie, vous êtes conférencière au Muséum d'Histoire Naturelle. Aujourd'hui, vous sortez un livre passionnant, Homo Lapidibus, sur la fascination qu'exercent sur nous les pierres. Un livre sans illustration, une fascination que vous qualifiez par ailleurs d'irrationnelle. Pourquoi irrationnelle? Quand on sait le prix d'un diamant, on se dit que ça n'a rien d'irrationnel.
Ce n'est pas moi qui ai choisi le terme irrationnel, c'est Charles-Henri Dubail, mon éditeur, à qui j'avais présenté un projet de livre très basique sur les quatre pierres précieuses, c'est-à-dire diamant, rubis, saphir, émeraude, et qui m'a dit « Non, cette formule-là ne m'intéresse pas, j'aimerais bien que vous me fassiez un texte sur l'irrationnel. » Alors, d'abord, je me suis dit « C'est une façon impolie de me raccompagner à la grille du parc. » Et puis, ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, je vais lui faire son texte sur l'irrationnel.
Oui, c'est irrationnel en fait.
Hein, voilà. Donc, on va essayer de décrypter la chose.
La rareté est pour beaucoup dans la fascination.
La rareté, la durabilité, parce que les pierres, en principe, traversent les siècles mieux que
nous. Les millions d'années.
Oui, des millions d'années. Qu'elles ont toujours été à la base des instruments utilisés par l'homme. Depuis le silex jusqu'au diamant, qui sont la pierre par excellence, qui est durable, puisqu'elle a une résistance qui fait qu'elle traverse les siècles différemment de nous. Voilà. Et puis aussi parce que c'est aussi des pierres qui marquent des personnages ou des anniversaires, des anniversaires et qui traversent les générations.
Et puis, leur beauté, vous dites qu'elle est innée, la beauté des pierres. Elle est innée, mais cachée. C'est la main de l'homme qui la met en valeur.
Voilà,
ce sont leurs défauts qui font leur valeur. Hein, puisque, à la différence d'un diamant synthétique, voilà, qui est parfait, une pierre précieuse, elle n'est pas parfaite, justement.
Je suis ravie que vous attaquiez ce sujet de cette façon-là. Parce qu'effectivement, le premier diamant qui a été trouvé en Afrique, c'était des enfants qui jouaient avec une pierre... qui a paru un peu différente des autres à un homme qui voyageait là. Donc il s'est intéressé à cette pierre et voilà. Et après ça, il l'a fait analyser en se disant elle est différente des autres et puis il s'est aperçu que c'était un diamant. Donc ça a été le premier diamant trouvé en Afrique parce que jusque-là, c'était des diamants qui provenaient d'Inde et qui étaient le résultat des voyages de Jean-Baptiste Tavernier, par exemple, pour Louis XIV. Qui a produit tous les diamants des collections de Louis XIV.
C'était les mines de Golconde à l'époque,
les mines de
Golconde. On rêvait parce qu'il y avait les plus beaux diamants du monde qui sortaient des mines de Golconde.
Voilà.
Mais restons un instant sur les pierres synthétiques. Vous dites qu'elles sont trop belles pour être vraies. Et en même temps, ces diamants qu'on arrive à produire aujourd'hui sont quand même extraordinaires.
C'est la reproduction exacte au point de vue minéralogique, composition chimique et structure. C'est la reproduction exacte des modèles naturels. Comme les autres pierres, du reste, les autres pierres précieuses qui sont imitées. C'est exactement, aucun appareil ne peut faire la différence. La seule chose qui fait la différence, c'est l'œil et les marques de naissance. Les marques de naissance qu'elles gardent à l'intérieur de leur matière et qu'on peut décrypter soit à l'œil, ce qu'on appelle les crapauds autrefois, ce qui n'est pas une jolie formule, mais enfin, on disait un diamant, non, il a des crapauds, on n'en veut pas. Bon, voilà, c'est la seule chose qui peut faire la différence. Moi, ça me réjouit. Enfin, les pierres anciennes qui ont des défauts puissent
en être fiers.
Voilà.
Les pierres dont vous parlez, les vraies, sont nées dans les entrailles de la terre. Hein. Les plus belles émeraudes du monde, par exemple, vous dites qu'elles viennent de Colombie.
Oui.
La première a été trouvée par un conquistador espagnol en 1545 dans la cordillère des Andes. Elle s'était coincée dans le sabot de son cheval.
Oui, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas été vérifiée. Hein. Mais c'est ce qu'on dit. C'est l'époque des conquistadors et que. Avant de massacrer tous ces malheureux Indiens, ils ont effectivement exploité les mines d'émeraude et les mines d'or.
En 1622, l'Atocha, un navire espagnol, disparaissait au large de la Floride avec un trésor légendaire. Et bien, trois siècles plus tard, en 1985, au bout de 16 ans d'efforts, il a été retrouvé par Mel Fisher, un chercheur de trésors. Il a remonté 40 tonnes d'or, d'argent et d'émeraudes, dont l'émeraude Atocha, je dis Atocha, mais
oui, c'est ça, oui.
Issue d'un cristal brut de plus de 25 carats. Hein.
Oui. Alors en plus, cette histoire de l'Atocha, c'est quand même extraordinaire parce que Mel Fisher avait fait tailler pour sa femme la plus belle émeraude. Et puis, ils sont morts tous les deux. Voilà. Et tous leurs objets ont été vendus. Et ça a été acheté aussi par un Américain ou un Canadien, plus exactement, qui a voulu acheter l'Atocha et en faire l'objet principal d'un aigle en or de 50 kilos d'or, etc. Et qu'il, après ça, a voulu vendre pour la recherche sur le cancer ou quelque chose comme ça. Et il ne l'a pas vendu pendant cette exposition à Vancouver, en allant rechercher son aigle dans un sac à dos avec un garde du corps. Ils se sont fait tous les deux tabasser et l'Atocha a disparu une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on n'a pas encore retrouvé sa trace.
De Jouvenel Tuny, vous n'avez pas aimé l'expertise, vous le racontez dans le livre, vous avez trouvé ça ingrat et ennuyeux. Les belles pierres sont rares, dites-vous. Et puis on fait souvent de la peine aux gens qui se croient possesseurs de pierres précieuses, alors que ça n'est pas le cas. Vous racontez l'histoire de cette jeune femme dont les parents avaient fui le Cambodge en échangeant tout ce qu'ils possédaient contre trois grosses émeraudes. Ouais. Leur fille est venue vous voir avec sa mère et les émeraudes. Et alors ?
C'était du verre. Et là, j'étais toute jeune à cette époque-là. Et j'étais confondue. Je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas leur dire. Et devant ma confusion, la petite me dit, ma mère parle pas français. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je lui dis, malheureusement, les émeraudes sont fausses. C'est du verre. Et ça m'a coupé net l'envie d'être expert.
Mais c'est arrivé au plus grand. Hein. C'est arrivé à la fin du 19e siècle au Louvre, hein, qui avait acheté la fameuse tiare du roi Saïd Tafarnèse.
Ah oui, voilà.
C'était un faux.
Oui, c'était un faux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que l'orfèvre russe qui avait fait cette tiare sur la commande d'un de ses clients... lui, il a été
encensé. Oui, on l'a carrément fait venir à Paris, on lui a donné une médaille tellement il avait fait du beau travail.
C'est ça. La terre de Saïd Tafarnèse, c'est une histoire extraordinaire, je trouve.
Vous racontez aussi que pendant longtemps, on a confondu la topaze avec le diamant et la spinelle avec le rubis.
Oui.
Et au fond, c'est seulement maintenant qu'on fait véritablement la différence entre
toutes
ces pierres.
Eh bien, c'est les progrès de la science. Le fait que depuis le XVIIIe siècle, on ait découvert la cristallisation. Le fait que toutes les pierres ne cristallisent pas de la même façon, la composition chimique, on s'est mis à tout analyser. C'est ce que je regrette un peu parce que du coup, jusque-là, toutes les pierres rouges s'appelaient rubis, c'était simple, les pierres vertes des émeraudes, et puis c'était très simple. Mais là, ça tout devient très compliqué. Et là, on s'est mis à tout analyser, ce qui fait qu'on a fait descendre de leur piédestal des tas de pierres, comme le rubis d'Anne de Bretagne, par exemple.
C'est pas ce qu'on croyait.
Voilà.
Ou à l'inverse, la déesse Ishtar que le Louvre détenait depuis 1866, on s'est aperçu tout à coup que ses yeux rouges, c'était des rubis.
Je vois que vous avez très bien lu.
On croyait que c'était du verre, non, c'était des rubis.
Oui, on s'est dit un jour, ça brille un peu plus, etc. Mais cette façon de tout analyser maintenant est un peu triste, parce qu'en fait, on n'aime plus les pierres pour leur physique.
Pour leur beauté.
On aime les pierres parce qu'on a un certificat qui certifie qu'elles sont...
Mais en même temps, elles exercent sur l'être humain un pouvoir mystérieux, vous en parlez beaucoup, hein, on leur prête des vertus médicinales, des pouvoirs magiques. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement, ça ?
Non, c'est pas prouvé scientifiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de la méthode Quay là-dedans.
Ou de l'irrationnel dont on parlait.
De l'irrationnel, et puis qu'en fait, les gens cherchent quelque chose qui va... Je prends l'exemple, quand on va chez un médecin, que le médecin vous dit « vous allez très bien, vous avez besoin de rien », on n'est pas content. En fait, on veut ressortir avec une ordonnance. Et là, je pense que c'est le même principe. Voilà, les gens qui sont déprimés ou qui ont mal aux genoux ou je ne sais quoi. Alors, il y a n'importe quoi. Par exemple, même dans les mangas, mon petit-fils m'a donné un livre sur les mangas où il célèbre les pierres qui sont la shungite, là, qui protège de toutes les mauvaises ondes et tout. Enfin bon.
Oui. Ben oui, c'est les Japonais, hein. Ils sont comme nous, hein. Ils sont irrationnels,
voilà.
Eux aussi.
Voilà, mais disons que ça touche même la jeune classe.
On fait une pause, Anne de Jouvenel-Tuny. On se retrouve tout de suite après, on continue de parler de pierres précieuses.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Anne de Jouvenel-Tuny, qui est gémologue et qui publie Homo Lapidibus, un livre sur la fascination qu'exercent sur nous les pierres précieuses. J'avais envie de vous parler du fameux diamant bleu de la couronne de France.
C'est un sujet délicat,
voilà,
effectivement.
Voilà, il a été volé en 1792, on est en pleine révolution,
oui.
Hein, et on sait très bien où il est. Hein. Il a été retaillé, c'est devenu le diamant Hope, oui. Qui est exposé au Smithsonian Institute de Washington. On n'est jamais parvenu à ce que les Américains nous le rendent.
Hein. Mais je crois qu'on ne l'a jamais réclamé.
Ah bon ?
Il me semble qu'on ne l'a jamais réclamé parce qu'en fait, on a eu la preuve. On a établi la preuve. On n'a pas eu, on a établi la preuve à travers un plomb qui était le fac-similé du diamant de Louis XIV. Bon, il a été volé en 1792. 20 ans après, les 20 ans sont passés, tous les vols révolutionnaires étaient, comment ça s'appelle ?
Prescrits,
c'est ça. Donc est apparu à Londres un diamant bleu qui ressemblait beaucoup comme couleur à celui de Louis XIV, sauf qu'il n'avait pas le même poids. Bon, il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse que ça soit une retaille, mais il n'en a pas pu le prouver à l'époque. Et on a pu le prouver que 200 ans après, c'est-à-dire dans les années 2000, quand on a trouvé au muséum ce plomb avec l'étiquette Hope. On s'est dit, là, on va faire quelque chose. Donc, avec les méthodes actuelles pour pouvoir superposer les images, on a superposé la photo du diamant Hope, la faute, etc. Et on a pu établir la falsification. Quoi. Enfin,
quand on retaille un diamant, il y gagne ou il y perd ?
Alors,
parce que vous ne cessez de raconter dans votre livre à quel point des diamants célèbres ont été retaillés
mais
tout le
oui,
temps.
Parce qu'ils veulent toujours améliorer. Par exemple, il y a une chose, dans une taille diamant, il y a ce qu'on appelle la collette. La collette, c'est la plus petite facette qui est à la pointe du diamant. C'était fait autrefois pour éviter que le diamant ne se casse, que cette petite pointe se casse. Et donc, on faisait une toute petite facette. Et à partir du moment où on a fait des études pour améliorer la taille, pour la brillance, etc., on s'est aperçu que ça faisait un trou. Quand le diamant était sur le doigt, on voyait le doigt à travers par ce petite facette, la collette. Et donc, on a décidé de fermer la collette, c'est-à-dire de la repointer. Et on s'est aperçu que ça changeait la couleur. Les diamantaires se sont aperçus que cette collette, finalement, elle avait une action bénéfique. Bon, mais maintenant, avec Tolkovsky, qui a fait la taille moderne, à 56 ou 58 facettes, suivant qu'on compte la facette principale et la facette de la pointe pour deux facettes, la taille Tolkovsky, c'est des angles particulièrement bien choisi pour que toute la lumière soit renvoyée. C'est-à-dire que tout ce qui rentre comme lumière par les facettes de la couronne ressort par la table. Et tout ce qui rentre par la table ressort par les facettes de la couronne. Il n'y a pas de lumière perdue. Bon, alors c'est la nouvelle mode. Maintenant, tous les diamants vont être taillés selon ces quatre critères qu'on appelle les 4C, c'est-à-dire cut, la taille, La pureté, etc., clarity, cut, et puis, etc. Donc, actuellement, tous les diamants taille ancienne, qui sont quelquefois en forme de patate, je dirais, parce qu'on a utilisé un maximum de poids, eh bien, on les retaille, mais on perd beaucoup à la taille. Mais ils gagnent en brillance, en couleur. Enfin, il paraît-il qu'il gagne.
Mais de toute façon, les gros diamants qu'on a pu trouver, il a bien fallu les tailler pour faire plusieurs.
Façon,
hein.
De toute façon, les gros diamants, le Cullinan, par exemple, 3106 carats, qui a la taille d'une paume, qui remplit une paume de main d'homme, a été taillé en 9 pierres principales et 99 petites. Et ces 9 pierres principales, dont la plus grosse, 530 carats, est sur le sceptre de la reine d'Angleterre. Le deuxième est sur la couronne impériale et les autres sont autour, etc., en broche ou je ne sais quoi. Et donc tout ça, ça a été taillé parce qu'à l'époque on fractionnait les diamants parce que c'est très dur de tailler un diamant, ça ne peut se tailler que par soi-même. Donc on avait découvert qu'ils avaient des zones de fragilité qui correspondaient à leur structure interne et que si on tapait dans ces zones de fragilité, ils se séparaient. Donc ça s'appelle le clivage.
Et il faut savoir le faire. Vous racontez qu'il y a celui qui est chargé de le faire pour le plus gros diamant.
Oui.
Il tape une première fois, ça marche. Il s'évanouit tellement il a peur.
Il s'évanouit. Bah, parce
qu'il a peur de l'avoir abîmé.
Alors ce diamant, il avait une base plate qui prouvait qu'il était déjà un morceau d'autre chose, un morceau d'un plus gros diamant et qu'il avait été clivé naturellement. Donc il s'était servi de cette base plate pour établir les autres positions. Et en fait, il l'a étudié pendant 2 ans. Avant de donner le premier coup. Et effectivement, il s'est évanoui d'émotion.
En tout cas, si on s'intéresse aux pierres, si on aime les pierres, voilà un livre qui va rapidement devenir indispensable. Homo Lapidibus, La passion des pierres. C'est signé Anne de Jouvenel-Tuny et c'est paru chez Udicence. Merci d'être venu sur Europe 1.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.